Les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Chaim Corsia.
Bonjour, dans cette émission consacrée aux mots de la Torah, j'ai le plaisir d'accueillir le rabbin Chaim Corsia, aumônier israélite de l'armée de l'air et des armées françaises. Chaim, on a déjà traité beaucoup de mots qui sont tous sujets d'émissions qui sont dans notre médiathèque. Aujourd'hui, on a choisi le mot armée, armée au pluriel, parce qu'on dit l'Éternel maître des armées. On n'en avait pas qu'une quand même.
Non, et puis c'est un... Oui, il y a ça, et puis c'est... Il y a plusieurs formes d'armées. Il y a les armées célestes.
Ah oui, c'est vrai.
Les armées des anges. Il y a puis les armées des hommes qui s'entrechoquent parfois.
Hélas.
Oui, alors les armées, d'ailleurs, c'est, dans la Bible, c'est assez étonnant parce que c'est un... l'armée est une forme d'obligation. Il s'agit de défendre... Mais on voit dans la Bible, alors, soit dans la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque, soit juste après, notamment avec Josué, comment est constituée l'armée. C'est assez étrange. Toute armée au monde ne cherche qu'une chose, à lever une masse de soldats. Plus il y a beaucoup il y a de soldats, mieux on se porte. Là, c'est un peu particulier. Josué va mettre en place un système pour reconnaître les soldats aptes à combattre, les soldats inaptes à combattre. Quels sont les soldats inaptes à combattre? Ceux qui n'ont pas la foi. Et il va faire un système où il va éliminer peu à peu les soldats pour se retrouver avec très peu de militaires. Alors, par exemple, il va les mettre devant un fleuve, il va leur dire « buvez ». Ceux qui posent le genou à terre pour boire sont ceux qui finalement baissent la tête dans leur vie. Sont ceux qui mettent le pied à terre trop vite. Donc il va leur dire c'est bon, vous pouvez rentrer chez eux. Donc il va recruter une armée de peu de militaires, mais une armée très forte par l'esprit. Et ça porte exactement la vocation de la Bible qui dit ce n'est pas avec le nombre, ce n'est pas avec les soldats, qui im beruchi, mais seulement avec mon esprit que vous combattrez. Et on voit bien. Lorsque, par exemple, les Hébreux sortent d'Égypte, l'armée de Pharaon se met en branle derrière eux avec les chevaux, les chariots, les chars de combat. Et cette armée est défaite dans le passage de la mer Rouge. Les Hébreux passent au milieu de la mer Rouge, les Égyptiens les suivent, la mer se referme au-dessus d'eux. Et on voit bien la peur de ce peuple qui est pourchassé par une armée immense, puissante, qui devient un peuple parce qu'il a confiance en Dieu, qui lui dit « n'aie peur ni du petit nombre, ni du grand nombre, ni de leur puissance, de rien ». C'est moi qui combat pour vous. Et c'est exactement ce que Dieu dit aux Hébreux devant la mer Rouge. Je suis l'Éternel, ayez confiance en moi, vous ne retournerez pas en Égypte, Dieu combattra pour vous. Hachem, Ilachem, Lachem, Dieu combattra pour vous.
Ce qui c'est fait un Dieu guerrier Est-ce qu'on peut dire ça?
Non, parce que guerrier, c'est un va-t-en-guerre.
Oui.
Non, Dieu est un Dieu qui préfère guerroyer lui plutôt que des hommes en viennent à se tuer les uns les autres. Et je trouve que c'est la plus grande des, le plus grand des amours pour les hommes. Lorsque Sadat, Anwar el-Sadat, le président égyptien, était allé à Jérusalem, c'était un geste extraordinaire pour la paix, c'était en 77.
Absolument.
Il est allé à Jérusalem. Et il a parlé devant la Knesset, sur le Parlement israélien. C'était un homme qui avait fait la guerre en 73, oui. Israël, les Égyptiens, la guerre de Kippour. Donc 4 ans plus tard, il arrive à Jérusalem. Il atterrit à Lod, à l'aéroport, et Golda Meir, vous vous souvenez, cette femme qui avait été première ministre de son pays, n'était plus première ministre, mais elle était invitée. Elle est sur le tarmac de l'aéroport. Il lui serre la main. C'était les deux qui avaient combattu en 73. Il lui serre la main. C'est un geste de paix très fort entre eux. Et elle lui dit cette phrase extraordinaire, elle lui dit, vous savez, monsieur le président, on vous pardonnera un jour d'avoir tué nos enfants, mais on ne vous pardonnera jamais de nous avoir obligés, nous, à tuer vos enfants. C'est-à-dire que peut-être que le plus grand geste d'amour que Dieu puisse faire dans des guerres, quand les hommes en arrivent forcément à se battre, c'est de s'interposer et de faire lui-même ce qu'il ne veut pas voir ses enfants faire entre eux. C'est terrible pour un père de devoir sanctionner ses enfants qui se battent. Mais c'est peut-être moins pire, moins grave que de les voir se battre entre eux. Et d'une certaine manière, c'est ce que Dieu fait. Voilà peut-être pourquoi on appelle Dieu éternel des armées, éternel Sevaot, qui vient en hébreu, les armées. Mais c'est aussi... l'Éternel de l'armée des anges. Et il a, l'Éternel a plusieurs armées et possibilités d'action à travers ses anges. Et n'oubliez pas que le mot ange en français est très bien, traduit très bien la vocation de ces créatures, puisque ange, ça vient du grec angelos, qui veut dire envoyé.
Messager, oui.
L'ange n'est que le messager, l'envoyé.
Est-ce qu'on peut les appeler, nous, par exemple, si on a besoin de quelque chose? Est-ce qu'on peut faire appel à l'armée des anges?
Moi, j'ai essayé. On fait le 18. Il y en a des anges, ils sont habillés tout en bleu, avec un casque argenté, avec des camions rouges, ils arrivent. Finalement, dès qu'un homme vient au secours d'un autre, c'est une forme d'ange. Quand on appelle un, je sais pas moi, quand vous êtes mal dans votre peau, c'est la semaine contre la dépression en ce moment, alors, ou la déprime. Vous êtes mal dans votre peau, mal dans votre vie, et vous appelez un ami, et cet ami ne vous dit pas, excuse-moi, je suis en train de regarder un match à la télé, excuse-moi, j'ai des enfants, je suis occupé, machin, qui vous prend au téléphone, qui vous donne du temps, qui vous écoute, c'est une forme d'ange. C'est-à-dire que, est un ange celui qui fait ce que Dieu aimerait que les hommes fassent entre eux. Voilà. C'est ça, incarner la volonté de Dieu. Et puis, puisqu'on est dans les armées, il y a aussi une très belle chose en conclusion. Il y a un très beau passage, encore une fois, qui en vient toujours à diminuer le nombre des militaires. Mais c'est impressionnant, cette idée, que les armées, c'est en fait une armée d'hommes, une armée de volonté. Lorsqu'il y avait la guerre à faire, la Bible raconte que l'aumônier général, mon illustre prédécesseur, qui était en fait l'adjoint du grand prêtre, l'adjoint du prêtre qui était ce qu'on appelait loin pour la guerre. Il avait cette onction particulière de mener, d'exhorter le peuple.
Loin pour la guerre, je ne connaissais pas cette expression.
D'exhorter le peuple à faire la guerre. Et cet homme-là, Marius, prédécesseur, haranguait le peuple et lui disait « Quel est l'homme qui a construit une maison et qui ne l'a pas habitée? Quel est l'homme qui a planté une vigne et qui n'a pas bu le vin? Quel est l'homme qui a épousé une femme et qui n'a pas vécu avec elle? Qu'il sorte des rangs, de peur qu'il meure à la guerre et qu'un autre que lui vive dans la maison qu'il a construite, boive la vigne qu'il a plantée, vive avec la femme qu'il a épousée. Quel est l'homme qui a peur qu'il sorte des rangs et qu'il ne parte pas à la guerre de peur de contaminer son frère? » En fait, voilà, tous les hommes, ceux qui avaient presque des regrets, qui avaient peur soit de combattre, soit de prendre le risque de perdre quelque chose de très cher. Quelque chose. Et finalement, c'est peut-être là qu'on comprend que la pire des choses pour un homme, c'est de monter un projet et de ne pas le voir se réaliser. Et je crois que c'est par la guerre qu'on comprend ça. Quand les hommes sont capables de déchirer ce contrat qui pousse les hommes à vivre ensemble, eh bien, on se rend compte qu'on a parfois plus peur de perdre une maison, une femme, une vie, une famille, une vigne, que la vie et la vie de l'autre. Et c'est peut-être ça ce que disait le grand prêtre chargé de la guerre, l'aumônier général des armées de l'époque. Il disait, rappelez-vous que vous combattez pour la vie et que si vous avez des scrupules à perdre une maison, ayez aussi des scrupules pour la vie de l'autre que vous serez peut-être amené à prendre. Et je crois que c'est une forme, une façon de dire que les armées, vous voyez, ne sont pas le lieu du déversoir de toute la violence humaine, mais c'est bien le lieu de concrétisation d'une éthique de vie. Et c'est peut-être ça la différence entre les armées de la Bible et certaines armées aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, Haïm Korsia, vous êtes aumônier général des armées françaises, justement. Est-ce que vous avez des opportunités de parler de cela, justement? Parler de la guerre, du rôle de l'armée, avec à la fois vos compères en religion et puis vos ouailles, j'allais dire.
Bien sûr, parce que c'est une très grande préoccupation dans les armées, cette notion d'éthique. Et vous savez qu'on a par exemple distribué à tous nos militaires en opération extérieure un livret où il y a des grandes règles. Et ces règles, c'est d'être humain, de porter les valeurs de la France, ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, partout. Je dois dire que nos armées sont particulièrement reconnus dans le monde, dans toutes les opérations extérieures dans lesquelles nous nous trouvons, comme étant les armées qui vont le plus au contact des populations. D'autres armées ont tendance à s'enfermer. Notre armée a une vocation d'ouverture, de rencontre avec toutes les cultures, les civilisations, sans les juger, en frères humains. Et je crois que ça tient aussi à cette culture française qui est à l'écoute et qui est une culture d'ouverture. Maintenant, ces préoccupations éthiques doivent être portées individuellement, ce qui est très difficile. Quand vous avez votre ami, votre camarade, votre frère d'armes qui se fait prendre, qui se fait tuer à côté de vous, ça crée forcément un ressentiment. Et il faut être capable de dominer, de maîtriser ça. D'où l'idée de Josué. On ne prend pas des bons soldats parce qu'ils savent bien manier l'épée. On prend des hommes de bien parce que leur épée sera toujours au service du bien.
Et puis qu'ils savent l'éthique, en effet.
Exactement.
Pour eux, c'est un chemin aussi spirituel d'y avoir réfléchi. Merci à Haïm Korsia. On se retrouvera pour un autre mot un jour prochain.
Bientôt.